Vous êtes sur RTL.
Les effroyables aveux d'Émile Louis dans l'affaire des 7 disparus de Lyon. « J'avais une bestiole en moi », a-t-il expliqué aux gendarmes dans le procès-verbal de sa garde à vue. Émile Louis parle de ses pulsions meurtrières de force surnaturelle. Il accuse pêle-mêle le démon et la pleine lune.
Bonsoir. Il y a 20 ans, le lundi 18 décembre 2000, la justice exhumait dans la campagne de Lyon les restes du premier corps découvert sur les indications du meurtrier Émile Louis. Les ossements et quelques lambeaux de vêtements de Madeleine de Just, 22 ans, pupille de l'assistance publique, disparue à l'été 1977, l'une des 7 disparues de Lyon, 7 victimes, peut-être plus, d'Émile Louis. Un homme qui, pendant de longues années, malgré les suspicions, les témoignages et les coïncidences avaient réussi à échapper aux enquêteurs, bénéficiant, dit-on, de l'aveuglement de certains magistrats et peut-être de passe-droit. 20 ans après ces aveux, force est de constater que bien des questions subsistent. Émile Louis s'est éteint en 2013 en emportant sans doute une partie de ses secrets. C'est cette trajectoire, la trajectoire d'Émile Louis, un bourreau resté trop longtemps impuni, que nous allons ce soir explorer, essayer de comprendre pourquoi il a pu rester dans l'ombre, comment il a bénéficié de l'inertie des institutions, abusé et martyrisé des jeunes femmes dont il savait pertinemment que personne ne s'intéressait à leur sort et serait à jamais des victimes perdues. Contre vents et marées, deux hommes, tout seuls, le gendarme Christian Jambert et Pierre Monnoir, à la tête d'une association de personnes handicapées, obtiendront que justice soit faite et qu'Émile Louis soit condamné. Le cas Émile Louis, un tueur en série trop longtemps impuni. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, retour sur le cas Émile Louis, un chauffeur de car scolaire à la réputation douteuse et à la main légère, mais que l'on craint. Son nom surgit pour la première fois au cours de l'année 1981. Ce dimanche 5 juillet 1981, un agriculteur de Rouvray, un village de Lyon, pénètre dans un ancien abri à bestiaux qui se dresse au milieu d'un champ. Dès l'entrée, il perçoit une odeur quasiment insoutenable. Il n'a aucune difficulté à discerner l'origine de cette puanteur. Grossièrement enfouie sous une couche de fumier, il y a là un corps en décomposition, sans doute déposé depuis de longues semaines. Le paysan indique qu'il vient rarement dans cette remise. Le cadavre porte des vêtements déchirés qui ressemblent à ceux d'une robe. Les mains sont attachées dans le dos et la bouche est entravée par ce qui ressemble à un bâillon. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un accident ni d'un suicide, mais bel et bien d'un crime. Le parquet d'Auxerre est alerté de cette découverte. La brigade de recherche de gendarmerie locale est saisie de l'enquête. Celui qui va mener les investigations est un officier dynamique, l'adjudant-chef Christian Jambert. Le médecin légiste établit que la victime est bien une femme qui aurait entre 20 et 30 ans. La date du décès remonte à quelques mois, mais impossible d'être beaucoup plus précis. Le corps est trop abîmé par ce séjour prolongé sous un tas de fumier. Le gendarme Jambert fait le tour des femmes signalées disparues dans la région. Il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elles sont nombreuses. Les comparaisons ADN n'existent pas en ce début des années 80. L'enquêteur procède donc de façon empirique grâce aux relevés dentaires dont il dispose. Mais aucune de ces empreintes ne correspond à la morte de Rouvray. Il va falloir attendre 5 mois le signalement d'une disparition ancienne pour que les investigations s'accélèrent. Sylviane Lesage, 22 ans, ancienne enfant de la DAS, mère célibataire d'un petit garçon, avait disparu il y a presque un an, aucune nouvelle. Après vérification, il s'avère que Sylviane est bien la morte de Rouvray. C'est l'ancienne nourrice de Sylviane, Gilberte Lemenoré, qui s'est inquiétée la première de sa disparition. La jeune femme est majeure, mais elle a gardé des liens avec cette femme qui prenait soin d'elle. Le gendarme Jambert prend contact avec la nourrice. Il a alors la surprise de découvrir que celle-ci vit maritalement avec un certain Émile Louis. Pas un inconnu pour l'enquêteur, il a entendu cet Émile Louis 2 ans auparavant pour la disparition déjà d'une jeune fille de 16 ans. Sans résultat, Émile Louis a alors 47 ans. C'est un homme qui a fait 1000 métiers, qui a été marié et qui a la réputation d'être un obsédé sexuel, tripotant les femmes, notamment des handicapés mentaux qu'il transporte. Il est chauffeur de car. Bonsoir Stéphane Manka.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous avez très longuement enquêté sur cette affaire, et notamment pour l'émission Perdu de vue. Vous avez coécrit avec Jacques Pradel « Disparu de Lyon, la 8e victime chez Michel Lafond ». On reviendra bien sûr sur toutes ces victimes. On ne va pas aller trop vite, on va progresser dans ce dossier Émile Louis. Alors déjà, que sait-on à l'époque là? On est tout début de cet Émile Louis. Quel est son parcours à cet homme qui surgit dans la campagne de Lyon?
Émile Louis, c'est un enfant de la DAS. C'est, lui-même a été placé dans son... voilà. Très jeune, dans une famille d'accueil. Et il sera dit qu'il a été très marqué au moment de la libération parce que ses sœurs de lait, donc les filles avec qui il était placé, auraient été tondues. Et il aurait, depuis, alors qu'il avait 9-10 ans, il aurait gardé une image de la femme extrêmement dégradée. Et il avait l'habitude de dire cette expression un peu, excusez-moi le terme, mais toutes des salopes.
C'est ça.
Ouais, et ce qu'il a. Ça a peut-être un lien avec son rapport extrêmement dégradé aux femmes et au fait qu'effectivement il deviendra un coureur de jupons, quoi, comme on disait à l'époque.
Un coureur de jupons, et même plus que ça, il va véritablement un obsédé sexuel et quelqu'un qui va les...
Parfois harceleur, oui,
voilà,
tout à fait.
Et qui va les poursuivre. Il y a autre chose aussi dans sa naissance qu'il faut peut-être noter, qui est important, c'est que il va dire, je crois, qu'il est fils d'un archevêque, c'est ça?
Non, il y a eu, parce qu'il y a eu plusieurs versions, etc. Mais il était un peu menteur à une époque aussi.
C'est ça.
Il y a eu la rumeur selon laquelle il aurait été en fait fils curé,
ouais,
ou d'un archevêque, ou etc. Voilà, tout à fait.
Alors ensuite, il va progresser, il va faire quoi? Des petits boulots, il va se marier, je crois.
Oui, alors il va se marier, il va avoir des enfants, il aura une carrière assez longue à la SNCF. Parce qu'on est dans ce coin de Lyon où il y a beaucoup de gens de la SNCF qui travaillent et qui s'installent parce que c'est un endroit notamment où on réparait, on nettoyait les wagons, où on les stockait aussi. Et mais finalement, lui-même, avec sa femme de l'époque, va devenir ce qu'on appelle famille d'accueil et va donc prendre
des enfants de la DAS, les recevoir.
Les
aider à grandir, etc.
Tout à fait. Qui va donner un complément
financier
à la famille.
Bien sûr.
Et lui va décider de quitter la SNCF pour faire d'autres métiers et finalement va devenir chauffeur de car en 71. Et là, ça lui plaît beaucoup parce qu'il est en contact avec le public et notamment avec pas mal de jeunes filles. Ça, il aime beaucoup le ramassage scolaire.
Et ce qu'il faut dire, Stéphane Manka, c'est qu'il a quand même pas très bonne réputation. Hein, on sait qu'il a les mains baladeuses, comme on dit.
C'est ça. Il a non seulement un problème avec les femmes, et comme vous dites, les mains baladeuses, mais ça ne plaît pas beaucoup aux hommes aussi, puisqu'il s'approche beaucoup des femmes mariées. Tout en étant toujours très mielleux, proposant d'aller faire les courses. Ah, votre mari n'est pas là, est-ce que vous voulez que je vous... on est aux limites, est-ce que vous voulez que je vous tonde la pelouse? Je vais faire les courses avec vous,
Il est un peu omniprésent et obsédant presque, hein. Il est toujours là.
On dit qu'il est mielleux et collant.
C'est ça.
Voilà.
Mielleux et collant.
Et ça ne plaît pas aux hommes, donc il aura quelques altercations avec certains qui se plaindront assez franchement. Il y aura des bagarres.
Vous confirmez qu'à l'époque, il n'y a pas de plainte contre lui?
Pas loin du monde, non, pas du tout.
C'est pas qu'on laisse faire, mais en tout cas, il n'est pas d'usage de déposer plainte pour ce genre de fait.
Non, d'abord, on n'est pas, même si ce sont des cas de harcèlement.
On est dans une autre époque.
Ce sont des cas de harcèlement avérés, mais on n'est pas, ça ne se règle pas comme ça. Se règle pas devant la justice à l'époque. Et même une drague, même très douteuse,
c'est
non, ça va pas.
Bonsoir Pierre Monnoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon et je vous présentais dans mon introduction comme l'une des deux personnes avec le gendarme Jambert qui a véritablement fait éclater cette affaire, et on vous en remercie chaleureusement ce soir parce que sans vous, sans votre combat, on n'aurait pas sans doute réussi à avoir une part de vérité. Je voulais simplement vous poser une petite question, Pierre Monnoir. J'ai raconté que le gendarme Jambert très très vite, il voit qu'il y a beaucoup de filles qui ont disparu comme ça. Il ne fait peut-être pas le lien immédiatement, mais en tout cas, à l'époque, déjà, ce sont des filles qui n'ont pas de famille, hein, c'est ça, c'est
des, c'est oui, des, tout à fait, des... ce sont des enfants de la DAS qui sont toutes séparées de leurs frères, de leurs sœurs, etc. Je vais juste revenir un petit peu sur le côté, le fait qu'il aurait pu être traumatisé parce que les jeunes femmes étaient tondues. C'est lui qui dénonçait, hein, il faut savoir. Hein, et c'est lui qui dénonçait auprès des autorités pour que ces jeunes femmes, parce qu'il était dans la toute-puissance, pour que ces jeunes femmes soient tondues. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais bon, c'est juste pour équilibrer les choses.
Bien sûr.
Et puis après, il a travaillé quand même sur un bateau mortuaire qui ramenait d'Indochine les cadavres.
C'est ça. Donc ah, oui, voilà. il a quand même un passé un petit peu mouvementé, on peut dire. Le portrait que vous faites de tout de suite là comme ça de Émile Louis à ses débuts, c'est quelqu'un qui a su profiter de situations, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'il était au courant de ce qui se passait un petit peu dans les centres, puisque dans les centres il y avait des viols que j'ai dénoncés moi au tout début, hein, puisque l'association a été créée en 92. C'est comme ça que je suis arrivé aux disparus de Lyon. C'est-à-dire que moi, j'avais un frère qui était handicapé mental. J'ai voulu rendre service à des directeurs suite à un viol qui avait été commis.
C'est ça, de... ouais. Donc, déjà, on est au courant qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond et qu'il y a peut-être des personnes qui en profitent, hein, c'est bien ça.
Oui, tout à fait. Mais on ne tombe pas tout de suite sur Émile Louis. Hein. C'est-à-dire qu'avant avant d'arriver à l'émission Pradel, etc., il y a eu quand même 5 ans.
Bien sûr, on va y venir, Monsieur Monor, on va y venir. Émile Louis va se retrouver en garde à vue. Il est considéré comme le témoin numéro 1 dans la disparition et le meurtre de Sylviane. Mais malgré un faisceau d'éléments qui convergent vers lui, il va parvenir à s'esquiver. Le cas Émile Louis, l'intouchable bourreau des disparus de Lyon. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au cas Émile Louis. En cette fin d'année 1981, ce chauffeur de car est pour la première fois sérieusement inquiété, soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'une jeune femme. Le 28 décembre 1981, Émile Louis est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Auxerre. Le gendarme Christian Jambert pense qu'il est derrière le meurtre de Sylviane Le Sage. Des témoins ont confirmé qu'il était le confident et l'amant de cette jeune femme fragile, sans famille, habituée à des rencontres sentimentales sans lendemain. Qui plus est, le corps a été retrouvé à une centaine de mètres où Émile Louis a l'habitude d'aller pêcher. Pendant la garde à vue, Gilberte, la compagne du chauffeur de bus, va fouiller dans ses affaires. Elle découvre, caché sous une montée d'escalier, un imperméable maculé de boue et de taches sombres, ainsi que des bandes de tissu identiques à celles qui ont servi à ligoter la victime. Autant d'indices qui accusent Émile Louis. Lors des 48 heures de garde à vue, le suspect nie toutes les accusations. En bloc, impossible de trouver une faille. Il tient tête au gendarme Jambert, martelant une seule et unique version. Il connaît Sylviane Le Sage, mais il n'a jamais été son amant. Tout ce qu'on raconte sur lui ne sont que des ragots. On a voulu lui nuire en déposant à son domicile cet imperméable. Il n'a jamais enlevé cette jeune fille et il l'a encore moins tuée. Le chauffeur de car tient tête, mais manque d'arguments. Il va alors complètement retourner la situation en faisant diversion. Il passe aux aveux, mais pas du tout pour cette affaire. Il avoue d'un seul coup avoir abusé de 3 filles mineures confiées par la DAS à sa compagne. Des attouchements, dit-il, des gestes déplacés. La garde à vue arrive à son terme et l'enquêteur Jambert est piégé. Le gendarme racontera que le suspect était sur le point de craquer quand il a soudain trouvé cette parade. Le gardé à vue n'est finalement pas poursuivi pour meurtre, seulement inculpé d'attentat à la pudeur sur mineur. Émile Louis est condamné en 1983 à 3 ans de prison ferme pour ses attouchements. Très curieusement, l'affaire du meurtre de Sylviane Le Sage se perd dans les limbes judiciaires. Aucune poursuite engagée. Malgré les suspicions, la justice se désintéresse de ce dossier qui, malgré la conviction du gendarme Jambert, serait insuffisamment étayé, mal ficelé. Le fait est que le 4 mai 1984, le juge Bourguignon délivre un non-lieu pour insuffisance de charge. Émile Louis ne sera jamais poursuivi pour ce meurtre retombé dans l'oubli. Stéphane Minca, journaliste et qui a beaucoup enquêté sur le cas Émile Louis. Alors là, il faut nous expliquer parce qu'il y a un véritable tour de passe-passe dans cette garde à vue.
Alors,
comment expliquer qu'il s'en sort, Émile Louis ?
En fait, Émile Louis n'est pas mis en garde à vue pour le meurtre de Sylviane Lesage. Il se retrouve en garde à vue parce que les enfants qui étaient sous sa responsabilité ont parlé. Peu de temps auparavant. Et on dit, voilà, Milou, il nous fait des choses dans le bain. Mmh. En fait, Émile Louis était déjà dans le viseur du gendarme Jean Bert, mais uniquement pour le meurtre de Sylviane Lesage. C'est au moment où les enfants disent qu'en plus il se passe des choses, qu'il faut évidemment
agir.
Il faut d'abord protéger les enfants. Et donc, c'est ainsi qu'il est placé en garde à vue. Sa garde à vue, le gendarme Jean Bert va profiter finalement de cette garde à vue pour lui dire...
Pour l'interroger.
Et pour Sylviane.
C'est ça.
C'est-à-dire que Émile Louis sait déjà de toute façon qu'il est confondu sur les actes de pédophilie. Mais par contre, il va résister sur l'affaire Sylviane. Et c'est à la sortie de cette garde à vue, il sera évidemment mis en examen et placé en détention sur le dossier pédophile, mais il reste, pour Jean Bert, il reste deux questions. C'est-à-dire, il reste le dossier Sylviane, et il reste autre chose que pendant son enquête, Jean Bert a découvert, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ont disparu et qui auraient des liens avec lui.
Bien sûr. Et ça évidemment, c'est l'enquête Jean Bert va s'étoffer et va se détailler. Alors, je suis évidemment votre raisonnement. Il ne donne pas d'explication sur le cas de Sylviane. Mais ensuite, on peut tout de même poser la question. Pourquoi le juge Bourguignon, qui est le juge d'instruction, décide de laisser tomber ce dossier ?
Alors, ce dossier s'est perdu. Le dossier Sylviane Lesage, effectivement... Pardon, c'est perdu un peu dans les limbes pour insuffisance de preuves à l'époque. Aujourd'hui, c'est une lecture qu'on trouve scandaleuse. Ce dossier aurait dû être continué, d'autant qu'il en avait. Mais le problème vient aussi de la réputation du gendarme Jean Bert à cette époque. C'est-à-dire que Jean Bert, sur les trois dossiers, donc la pédophilie, le dossier Lesage et les disparus, les trois dossiers sont disjoints déjà, pour ne pas inquiéter qu'Émile Louis. Et dire, voilà, il y a trois faits. Et le gendarme Jean Bert, à cette époque, est extrêmement entreprenant auprès de la justice, en disant, voilà, il faut me confier... Cette affaire, il faut la continuer, et c'est Émile Louis. Et la justice passe son temps à lui dire, mais montrez-nous des preuves. Il n'y a pas de preuves, en réalité. On n'a pas les moyens qu'on aurait aujourd'hui, évidemment. Et donc, ce dossier va être abandonné, par le juge d'instruction pour insuffisance de preuves.
C'est ça, effectivement. Donc on va le laisser tomber. Pierre Monnoir, vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon et que vous avez participé de manière très très puissante et très dans ce dossier pour le faire émerger. Vous avez bien connu, je crois, Christian Jean Bert à une époque.
Je l'ai connu en 96, puisque pendant 5 ans, nous nous sommes battus, l'association, avec les directeurs, etc., pour prouver que ces jeunes filles existaient. Sauf que lorsque je suis arrivé sur le plateau de Perdu de Vue, nous n'avions que 4 disparus. Je veux simplement dire qu'il y avait bien eu une garde à vue quand même dans le cadre de Sylviane.
D'accord. Donc,
le gendarme Jean Bert, moi je l'ai rencontré sur les marches du palais lorsque nous sommes allés pour déposer des plaintes pour enlèvement et séquestration après 2-3 émissions de Perdu de Vue. On avait retrouvé les familles et il était étonné que nous soyons là parce que lui n'avait pas réussi, si vous avez mieux, à fédérer, à retrouver, etc. Par contre, il avait fait un PV qui était extrêmement circonstancié. Oui. On a dit qu'il avait disparu, mais ce PV n'avait jamais disparu. Il est toujours resté dans le tribunal.
On va venir, Monsieur Monnoir, bien sûr, dans la progression de cette heure du crime sur ce fameux procès-verbal qui va être une des pièces maîtresses de l'accusation. Vous avez écouté, Monsieur Monnoir, Stéphane Monnca. J'aimerais avoir votre avis, moi, sur le fait que le juge décide de ne pas poursuivre insuffisance de charge. Au sujet du dossier de Sylviane Lesage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démonstration ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez déjà de charges à l'époque pour inculper, comme on disait, Émile Louis ?
Vous savez, je crois que à l'époque, dans toutes ces années-là, il fallait surtout pas de bruit, pas de vagues. Donc, tant qu'effectivement, il n'y avait pas des choses beaucoup plus circonstanciées, alors qu'il y en avait quand même, on n'est pas dans l'époque actuelle, hein, où maintenant, il y a de l'ADN, il y a tout ça, enfin, il y a des choses beaucoup plus... voilà, et le juge était tout puissant. Mmh. Donc, on voit bien que... il y a plein de dossiers de la part de ce juge bourguignon qui ont été malmenés. Bon.
Émile Louis ne va pas rester très longtemps en prison. Un an après sa condamnation, il sort. Il va alors se faire oublier, laissant derrière lui une série de jeunes femmes devenues des ombres et qu'on va bientôt baptiser les disparus de Lyon. Le cas Émile Louis, la trajectoire d'un glacial tueur en série, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Et ce soir dans l'heure du crime, le cas Émile Louis. En 1983, le chauffeur de car a échappé à une première accusation de meurtre. Il a quitté son département, Lyon, pour aller s'installer dans le Var, où on ne le connaît pas, mais où il va refaire parler de lui. Émile Louis a quitté la prison d'Auxerre en 1984 et se retrouve plus au sud, dans la région de Draguignan. Ici, il vit de petits boulots, fossoyeur pour des entreprises de pompes funèbres et d'aide sociale. Il est hébergé un moment par son ex-belle-mère, belle-sœur, puis s'achète un camping-car avec lequel il sillonne la région et fréquente des campings. Impossible de suivre précisément sa trace. Le fait est que son nom ressurgit 5 ans après son installation dans le Var au détour d'une affaire criminelle. Il est suspecté du meurtre du petit Joris, 8 ans, en vacances dans un camping avec ses parents. Émile Louis était dans le secteur, mais il est mis hors de cause. L'ancien chauffeur de car va toutefois être arrêté pour des attentats à la pudeur commis sur des enfants, ceux de ses voisins de camping. Il est pour cela condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à 5 ans de prison avec mise à l'épreuve pendant 3 ans. Il est libéré le 18 avril 1992. Pendant l'exil d'Émile Louis dans le Var, l'adjudant-chef Jean Bert n'a pas ménagé sa peine. Malgré les freins de la justice, il demeure persuadé que cet homme est derrière les disparitions inquiétantes, mais oubliées, de plusieurs jeunes femmes dans Lyon. Il en a recensé pour le moment 6. Elles présentent toutes des profils ressemblants, adolescentes et adultes, placées dans des familles d'accueil, des filles parfois handicapées, vulnérables, qui ont fréquenté des institutions spécialisées. La liste de Christian Jambert mentionne ainsi les noms de Chantal Gras, 18 ans, Madeleine de Juste, 22 ans, Françoise Lemoine, 29 ans, et sa sœur Bernadette, 19 ans, ou encore Martine Renaud, 16 ans. Il faudra ajouter Christine Marlot, 15 ans. Émile Louis les connaît toutes, il les transporte dans son autobus entre le centre médico-éducatif et leur famille d'accueil. Quelques jours avant de disparaître, Chantal avait ainsi confié à son frère qu'elle voulait partir avec un homme plus âgé qu'elle, un chauffeur de car. Françoise, elle, était la maîtresse d'Émile Louis. Quant à Martine, elle a disparu alors que celui-ci était dans le secteur. Il avait dit qu'il recherchait un chien égaré. Le gendarme Jean Bert transmet à la justice, dès le mois de juin 1984, un procès-verbal de synthèse accablant pour Émile Louis. Il présente l'individu comme le possible ravisseur des disparus de Lyon. Celles-ci ont de toute évidence été assassinées. Le rapport évoque aussi des réseaux proxénètes et sadomasochistes qui s'en prendraient aux filles de la DAS. Contre toute attente, ce document est classé sans suite. Jeté aux oubliettes, le procureur de la République d'Auxerre, René Meyer, décide de ne pas ouvrir d'enquête. Manque de preuves. Le gendarme Jean Bert est cependant autorisé à poursuivre l'enquête. Le rapport sera exhumé en 1996. Stéphane Manka, journaliste et qui a beaucoup enquêté sur cette affaire Émile Louis. Alors on est là à un acte très important de l'affaire, j'allais même dire un tournant, hein, c'est le fameux rapport du gendarme Jean Bert. Dites-nous, qu'est-ce qui contient finalement ce rapport qui a l'air explosif?
Ah, c'est Jean Bert fait le lien entre Émile Louis et 6 disparitions de jeunes filles. C'est énorme le travail qu'il a accompli à l'époque. C'est-à-dire que partant du fameux cadavre de Rouvray qu'il essaie d'identifier.
Tout à fait. Celui de Sylviane.
Il va avoir une démarche totalement inédite à l'époque qui consiste à dire « je reprends toutes les disparitions signalées, parfois pas par des plaintes, hein, parfois simplement par on appelait ça une RIF à l'époque, une recherche de l'intérêt des familles, par exemple. Donc il y a des gens qui sont venus en disant « je n'ai plus de nouvelles de ma fille, de ma sœur, etc. » Il les a tous recensés.
Il les a collectés, c'est ça ?
Il les a collectés en pensant que... une de ces femmes pouvait être le cadavre de Rouvray. Ça ne sera pas le cas. Mais dans cette enquête, il découvre que toutes ont eu affaire, de manière plus ou moins proche, à Émile Louis. C'est énorme, c'est une bombe, il l'écrit. Oui. Il l'écrit dans un rapport assez long, que la justice, sur laquelle quelqu'un, on ne sait pas qui, sur une demande d'instruction, quelqu'un, on ne saura jamais qui a écrit non.
Ah, on ne sait toujours pas aujourd'hui.
On n'a jamais su. Il y a eu des graphologies. Les,
20 ans après la condamnation d'Émile Louis, sur laquelle on vient d'avoir enfin d'émission, on ne sait toujours pas qui a écrit ce nom.
Sur ce dossier-là, précisément, le dossier des disparus, on ne saura jamais. Les trois magistrats instructeurs susceptibles de l'écrire, ou les substituts, ou le procureur, tout le monde a été entendu. Il y a juste un nom, donc on ne sait pas exactement. La faute est finalement collective.
Pierre Monnoir, vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, parce que moi, je vous avoue, j'ignorais cette histoire du nom écrit de toutes lettres. Je pensais qu'on avait trouvé la personne qui l'avait rédigé, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Comment, Pierre Monnoir, expliquez-vous le refus des autorités d'enquêter sur ces faits dénoncés très précisément par le gendarme Jambert ?
Écoutez, il y a quand même eu beaucoup de dysfonctionnements au tribunal d'Auxerre, puisque vous savez, il y a quand même eu 4 procureurs qui ont été inquiétés suite à l'inspection générale des affaires judiciaires. Donc, alors pourquoi le nom ? Il avait demandé un complément supplétif de pouvoir enquêter, et c'est là où quelqu'un a marqué non. Sur 3 lettres, c'est très difficile de savoir qui a pu écrire ça, parce que c'est des lettres bâtons. Donc très compliqué. Par contre, il est bien évident qu'on nous a dit pendant des années que ce rapport Jambert, puisque moi je l'avais rencontré, avait été perdu, etc. Et en réalité, il n'a jamais été perdu, puisqu'il était dans le coffre-fort du parquet d'Auxerre. Lorsque Madame Le Quéau m'a reçu dans les 2 jours qui ont suivi la découverte des corps, elle m'a dit non, il n'avait pas disparu, il était là.
Mais voilà. pour placer, Monsieur Monnoir, excusez-moi, mais pour placer un document pareil dans un coffre-fort, c'est qu'il a de la valeur.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et pourtant, ça ne va pas bouger. Là, vous n'aurez pas d'explication, vous, par exemple, à l'association qui avait mené ce combat. Vous n'aurez pas de réponse là-dessus.
Non, mais vous savez, il y avait beaucoup de dysfonctionnements graves. C'est-à-dire qu'il y avait dans les centres, il y avait des viols. Moi, j'en ai dénoncé 2. Ça a été classé toujours sans suite. Il y a eu l'affaire d'Apoigny.
Un mot là-dessus, Pierre Monnoir. L'affaire d'Apoigny, ce sont 2 jeunes filles, je crois, qui ont été torturées dans une cave et livrées à des clients. C'est ça, pour résumer un petit peu cette affaire horrible. L'une d'elles a réussi à s'échapper. Et ainsi, on a eu vent de cette histoire avec des clients qui seraient des notables impliqués. Ça a fait beaucoup de bruit et ça a pesé sur l'enquête Émile Louis, vous pensez ?
Ah oui, tout à fait. Là, quand nous, on s'est occupé de tout ça, moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer. Moi, je connaissais pas le contexte local, mais quand d'un côté vous avez un secrétaire général d'association notable qui viole une jeune fille à l'âge de 60 ans, c'est quand même perturbant. Quand vous avez dans le pavillon d'Apoigny les 2 jeunes filles qui ont transité par les mêmes centres, ça devient encore plus percutant. Et la troisième chose, c'est que lorsque vous avez une directrice dont le mari a donc été condamné pour attentat à la pudeur, etc., parce que c'était reclassé, on n'a pas dit que c'était des viols, on a dit que c'était des attentats à la pudeur, qui va en tant que témoin de moralité, justement, du fameux Émile Louis, à Paris, en cours d'appel, un simple chauffeur de car qui est défendu par un avocat très connu, on se pose des questions. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Bien sûr.
On a enquêté, on a été menacé de mort pendant, ça a duré 3-4 ans.
Menacé de mort, M. Charry. Menacé de mort, M. Monnoir.
Oui, bien sûr. On a lancé un appel d'ailleurs sur RTL en 95.
Exact, le premier appel est sur RTL.
Oui, c'est sûr, avec Alain Cros.
Je voulais juste résumer un petit peu votre propos parce que il y a effectivement la mise en cause d'un directeur d'établissement.
C'est ça. Non, mais Pierre Monnard a parfaitement raison d'en parler parce que c'est le nouveau départ de l'affaire Émile Louis. C'est-à-dire que quand Pierre Monnard s'empare finalement de tout ce climat délétère qu'il découvre, c'est grâce à ça que va surgir finalement l'affaire Émile Louis, entre autres.
En deux mots, l'affaire Pierre Charrier.
C'est ce que disait Pierre. C'est un directeur d'établissement de La Page à l'époque qui est pris en flagrant délit de viol sur une des filles dont il a la charge et qu'il violait de mémoire tous les mardis soirs ou tous les mercredis soirs.
On va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de pourri ici.
Ce qui est pire que ça,
au royaume de Lyon,
ce qui est pire que ça, et ça Pierre vous le racontera mieux que moi, c'est-à-dire que l'homme est pris en flagrant délit de viol sur une des jeunes filles de 16 ans dont il a la charge, et l'association, La Page, refuse de se constituer partie civile.
Et au contraire, et évidemment, la femme de cet homme va effectivement appuyer, témoin de moralité.
Elle va continuer à être, elle, directrice du centre, et mais Pierre va reprendre la parole, parce qu'il est bien meilleur là-dessus, et il dira effectivement, la fille violée continue à être sous la responsabilité de la femme du violeur.
Ah oui, c'est tout à fait terrible comme scénario, le pire qu'on puisse imaginer. Dans tous les cas, un rapport jeté à la corbeille, une justice bien timide pour lancer des investigations sur les disparus de Lyon. À croire que ce dossier serait explosif ou gênant, il va falloir de la persévérance pour attraper Émile Louis, omniprésent derrière chaque disparition. Le cas Émile Louis, quand le suspect numéro 1 reste hors d'atteinte. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au cas Émile Louis, suspecté depuis 1984 d'être derrière l'affaire des disparus de Lyon. Le rapport du gendarme Jambert l'accable, mais il continue à bénéficier d'une étonnante impunité. Jusqu'à sa mort, le 4 août 1997, le gendarme Christian Jambert va être obsédé par l'affaire de ces jeunes filles disparues. Mais à l'époque, peu de monde prête une oreille attentive à ses conclusions. C'est tout juste si on ne le prend pas pour un fou. L'association de défense des handicapés de Lyon, animée par Pierre Monnoir et Jeannette Beaufumet, est-elle bien décidée à faire la lumière sur les disparus de Lyon ? En 1996, Pierre Monnoir lance un appel à témoins sur les ondes de RTL. Dans l'émission, les auditeurs ont la parole pour stimuler les institutions judiciaires. Puis, il contacte l'émission Perdue de vue sur TF1, présentée par Jacques Pradel. Une agitation médiatique qui va déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire. Le 3 juillet 1996, l'avocat de l'association, maître Pierre Gonzalez de Gaspard, dépose une plainte auprès du juge d'instruction Benoît Lewandowski pour enlèvement et séquestration. Mais une nouvelle fois, la justice bloque. Réouverture du dossier refusée, les faits seraient prescrits. Après un épineux combat juridique, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ordonne au juge d'Auxerre d'enquêter sur les disparus. Les gendarmes d'Auxerre, puis ceux de la section de recherche de Paris, fin 1997, sont saisis. Les enquêteurs qui, tout naturellement, vont marcher sur les traces du gendarme Jambert. Ils vont ainsi tirer le fil qui conduit à Émile Louis. À cette époque, l'ancien chauffeur de car est toujours dans le Var. Il est sorti de prison en 1992 après avoir purgé sa peine pour attentat à la pudeur sur des mineurs. Il a ensuite épousé Chantal Paradis, une invalide dont il est tout bonnement le tuteur et dont il gère la pension. Le nom d'Émile Louis circule alors à tout va. L'intéressé donne des interviews dans lesquelles il élude sa responsabilité dans l'affaire des disparus de Lyon. Au détour d'une phrase, il laisse entendre qu'il y a prescription. Le 12 décembre 2000, les gendarmes interpellent Émile Louis.
il est placé en garde à vue. Sans doute a-t-il eu la certitude que ses crimes étaient prescrits, qu'il ne risquait rien dans tous les cas de figure. Il ne cherche pas cette fois à dissimuler ses forfaits. Il avoue les meurtres de 7 jeunes femmes et va même plus loin. Il donne des détails sur la manière dont elles ont été tuées, sur les lieux où elles pourraient encore se trouver. Émile Louis a expliqué son comportement par des pulsions incontrôlées, indique le procureur. 6 jours après avoir formulé ses aveux, le lundi 18 décembre, le premier corps des disparus de Lyon, celui de Madeleine de Just, est retrouvé, enterré à Rouvray, le long de la rivière Le Serein. Pierre Monnoir, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime pour nous parler évidemment de cette affaire, les disparus de Lyon, sur laquelle vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. J'aimerais revenir avec vous sur le combat que vous avez mené, et notamment pour arriver à vraiment à ce que la justice s'en mêle et qu'il y ait une information judiciaire. Est-ce que vous vous souvenez de ces efforts qui ont été déployés à l'époque ?
Oui, bien évidemment, puisque c'était un travail de tous les jours. Mais vous savez, lorsqu'on dit le dossier Jambert n'a pas, il s'est arrêté en 84. Après, il y a quand même eu des disparitions, Isabelle Laville, Demèche, qui étaient des jeunes filles handicapées. Bon, c'est peut-être un autre tour en série, mais là, c'est pour vous montrer simplement, Joanna Parrish aussi, que la justice ne faisait pas son travail.
C'est ça.
D'ailleurs, dans un rapport de l'inspection générale des affaires judiciaires, ils disent qu'il y a 0,0% de réussite à l'époque sur les affaires criminelles. Et puis je peux vous citer aussi Daniel Bernard, qui est toujours pas résolu. Enfin, il y a plein de jeunes filles à l'époque. Donc on a des cold cases actuellement parce que la justice n'a pas fait son travail à l'époque.
Parce que la justice n'a pas bougé à l'époque. Ce que je veux dire par là, Pierre Monnoir, c'est que c'est un bras de fer que vous avez joué à cette époque.
Oui, parce que lorsque j'ai fait les auditeurs ont la parole en 95, j'ai été convoqué par le directeur de la DAS avec Madame Beaufumé. À l'époque, j'étais que vice-président, parce que c'était Madame Beaufumé qui avait lancé notre association, mais après, elle a eu des soucis de santé, j'ai été obligé de prendre le relais. Et le directeur de la DAS me menace de diffamation pendant presque une heure, vous rendez compte ce que vous avez déclaré sur RTL, comme quoi il y avait des disparitions. Alors au bout d'un moment, je lui ai dit, bon écoutez, c'est pas la peine, on discute pas plus longtemps, on va aller au tribunal, comme ça on mettra sur la place publique. Alors très embêté après, bien évidemment. Donc on a subi des pressions et des pressions, les directeurs ont subi des pressions énormes. Quand on a réussi à sortir les documents où il y avait marqué fugue, la nuit, ils ont pris en photo, enfin dans les archives, enfin etc. Il y a vraiment eu un travail qui était très important, et les menaces de mort qui étaient toujours là quand même.
Alors décidément, ce dossier, personne voulait qu'il sorte. Stéphane Manka, journaliste, et vous avez enquêté sur cette affaire. Pourquoi Émile Louis à vous, comme ça ?
Pour la prescription ? C'est ce qu'ont raconté les enquêteurs.
Il en est persuadé de ça.
C'est ce qu'ont raconté les enquêteurs. De toute façon, c'était un coup de dé. C'est-à-dire que on n'a pas plus d'éléments en 2000 que Jean Bern en a en 1984. Malgré l'ADN, malgré tout ça, il n'y a plus un élément, évidemment. Donc, on a un faisceau de présomption. Et un coup de dé qui va être tenté, et effectivement, il va finir par... Ils vont lui taper sur l'épaule en disant, écoute maintenant...
Il est en confiance, il se livre, etc.
Il est en confiance, et...
Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, j'ai dit brièvement...
Je sais plus comment il formule ça, très sincèrement, mais grosso modo, bon, bah allez, je vais vous dire où elles sont, quoi.
C'est ça. Donc, et là, il se met à table,
parce que, vraiment, oui, il se met à table. Et là, on passe... ils vont passer nom après nom à dire, voilà... Dans quelles conditions vous l'avez rencontré, à quel moment vous l'avez tué. Certaines, il s'en souvient à peu près. D'autres, il dit oui, je crois que celle-là. Mais en fait,
parfois, il ne se souvient pas des visages.
Ce qui est glaçant,
d'ailleurs.
Ce qui est même glaçant quand on lit le PV d'aveu, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas compté pour lui. C'est-à-dire que. Enfin, qu'elle n'est pas comptée, évidemment, il les a tuées. Mais en plus, il n'en garde même pas un souvenir.
Il va dire que certains visages se sont effacés.
Tout à fait.
Il va dire, je me souviens pas vaguement le nom, etc. J'étais au bord de cette rivière et puis j'ai eu une espèce de trou noir. Je sais même pas ce qui s'est passé.
Oui. Il y en a une. Il dit, ouais, peut-être. Je l'ai peut-être croisé. Si vous me le dites, c'est que c'est vrai, quoi.
Pierre Monnoir, vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je suppose que ces aveux d'Émile Louis et puis la découverte de ce premier corps, c'est pour vous, bon, il faut le dire, c'est un véritable soulagement, c'est ça.
Oui, alors c'est c'est un soulagement, mais il faut savoir quand même qu'Émile Louis avait pris contact quand même avec un avocat hein, là-bas. Il n'est pas, il n'a pas été qu'en contact qu'avec la gendarmerie. Hein. Après la gendarmerie, il a demandé bien évidemment avoir le code. Et le problème, c'est que il y avait prescription entre guillemets, et on avait un ancien procureur qui disait même s'il rentre dans mon bureau, procureur Casal, moi je le relâche parce que même s'il donne des aveux. Sauf que lorsque pendant l'enquête, si vous aimez mieux, du Conseil supérieur de la magistrature, on montre un document. On me dit, est-ce que c'est vous qui avez écrit ça? Et j'avais dénoncé des disparitions auprès de Bertrand Dailly, procureur de la République de l'époque, en disant, voilà, moi, il y a un viol qui s'est passé avec un veilleur de nuit toujours dans le même centre. Voilà, et sur une feuille, j'avais marqué 4 noms. Parce que quand on est arrivé chez Jacques Pradel, on n'avait que 4 noms. Hein. Voilà. Et donc, il a commencé à faire un début d'enquête auprès de la DAS, et il fallait valider le début de l'enquête comme acte interruptif de la prescription, puisque c'était avant 94. Donc c'est parce que j'ai fait un document écrit, pourquoi je l'ai fait et je l'ai daté et signé, je sais pas, c'était comme ça, j'ai mis sur
en un... tout cas, ça a marché, c'est ça, hein,
ça... Ben, ça a marché, mais enfin, ça a été encore des combats, si vous aimez mieux. Et là, on a fait ça beaucoup avec Corinne Herman et Didier Seban, parce que, il faut savoir que dès l'arrestation d'Émile Louis, on a changé d'avocat, parce qu'il y avait des dérapages qui étaient intolérables pour moi. Mmh. Et donc, Corinne Herman a continué sur le dossier. D'ailleurs, on la voit beaucoup dans les
colloques
actuellement.
Bien sûr.
Et puis Didier Seban. Et là, il a fallu faire un travail et puis redonner des centres à des gens normaux. Donc ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de bâtons dans les roues sur le département, parce que moi j'avais fait le tour des conseillers départementaux,
bien sûr,
généraux, etc. quoi.
Émile Louis va revenir sur ses aveux, mais ses dénégations cette fois ne porteront pas. Il n'échappera pas à un procès pour des faits commis il y a une trentaine d'années. Le cas Émile Louis, le bourreau des disparus de Lyon, enfin rattrapé, mais connaît-on toute la vérité? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, le cas Émile Louis, le 14 novembre 2003, l'ancien chauffeur de car a été renvoyé devant la cour d'assises de Lyon. Son procès se déroule au mois de novembre 2004. Émile Louis, 70 ans, se présente sans trembler devant les magistrats, jurés, avocats et publics de la cour d'assises. Il doit répondre de 7 disparitions suivies d'assassinats. Au cours des débats, il ne va pas laisser transparaître la moindre émotion, pas un mot ou un regard pour les familles des victimes, ces filles fragiles dont il abusait puis qu'il exécutait. Des experts parlent d'une personnalité ambivalente. Derrière le bon père de 4 enfants, l'homme jovial et cordial, se cacherait un pur pervers sadique. Un individu qui éprouve une véritable jouissance à établir une domination sur l'autre. Le président de la cour dépeint l'accusé comme une forteresse entourant un vide affectif sidéral. Maître Herman, l'une des avocates des disparus, se souviendra d'Émile Louis en train de sourire en regardant les photos des cadavres. Le 26 novembre 2004, il est condamné à la perpétuité. Il avait été précédemment condamné au mois de mars par la cour d'assises du Var à 20 ans pour viol et torture sur sa seconde épouse. 9 ans après sa condamnation dans l'affaire des disparu de Lyon, Émile Louis meurt à 79 ans, rongé par le diabète à la prison hôpital de Nancy. Il avait été transféré quelques jours auparavant de la prison d'Insisheim, où son état de santé s'était brutalement dégradé. Pierre Monnoir, un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous étiez évidemment, vous, en qualité de fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon, présent à ce procès. Vous l'avez suivi de A à Z. Comment ça s'est déroulé? Quel visage a montré alors Émile Louis?
J'ai suivi les deux procès, bien évidemment. Hein, ça a duré un mois à chaque fois. Quel visage il a montré? Bon, de toute façon, il est revenu sur ses aveux parce qu'il avait très peur de retourner en prison. Un bon père tranquille, moqueur, voilà quoi. De toute façon, sur Émile Louis, je dirais il y a plus rien à dire quoi. On connaît toute la vérité sur Émile Louis. Ce qu'on connaît moins, c'est la vérité sur la mort de Jean Bert. qui va peut-être sortir bientôt.
Alors, un mot là-dessus, parce que je comptais quand même que vous questionnez là-dessus. Effectivement, le gendarme Jambert s'est suicidé officiellement de 2 balles, ce qui n'est pas commun. Quel est votre sentiment là-dessus? Il s'est suicidé après avoir mené très longuement l'enquête et s'être presque épuisé dans ce travail.
Oui, non, ça c'est une interprétation. Enfin, vous savez, il y a eu 3 expertises hein, dans le cas de Jambert. Une première où on dit on l'a assassiné. La deuxième, on dit non, il s'est suicidé. Et la troisième, par rapport aux experts de Lyon qui disent il s'est suicidé, il n'y avait pas les 2 os d'entrée de balle. Donc, faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Et puis bon, vous savez, j'ai réussi à avoir il y a 2 ans un square au nom de Christian Jambert. D'accord. Ça a été donné par la mairie d'Auxerre parce que la gendarmerie avait donné un truc d'OPJ au nom de Christian Jambert. La gendarmerie a eu du mal à avaler la pilule, c'est pour ça que j'ai pu avoir 20 ans après un square au nom de Christian Jambert.
Mais quel est votre sentiment, vous, Pierre Monnoir, sur cette mort qualifiée d'étrange? On ne peut pas dire le contraire.
C'est pas une mort, c'est un assassinat, mais c'est pas forcément par rapport à Émile Louis. C'est pas du tout par rapport à Émile Louis. Il faut savoir qu'il s'était occupé
d'autres
de l'affaire
affaires.
De Rigovois. C'est lui qui est arrivé le premier sur
D'accord.
les lieux. Voilà, donc, et puis il était sur un réseau pédocriminel entre la Nièvre et Lyon.
Exactement.
Voilà, ouais, voilà. Donc c'est tout à fait à part, ça. Et comme il avait dit dans l'émission Perdu de vue, je vais tout dire parce qu'il devait être entendu quelque temps après. Forcément, il y a peut-être des gens qui ont eu peur. Quoi. Voilà, quoi.
Encore un petit mot, Pierre Monnoir. Est-ce que vous l'avez dit d'ailleurs très brièvement, mais on sait tout des crimes d'Émile Louis? Il n'y a plus de mystère sur
Alors, on sait tout. On sait pas. Il y a des crimes qui ont été prescrits, hein, comme la petite Évin, etc. Donc voilà, on ne sait pas comment elle a été tuée. Etc. Bon, il y a aussi la petite Séverner, je crois qu'elle s'appelait, qui était dans un camping où il était dans le Var. Voilà, bon, on ne sait pas le nombre exact, ça on ne sait pas. On pense qu'il y en a quand même plus d'une vingtaine, mais bon, c'est voilà quoi. Par contre, on sait toute l'histoire, quoi. Je veux dire, c'est pas un réseau. Faut arrêter de. Je veux pas qu'on fasse du révisionnisme sur Émile Louis. Mmh. C'est un tueur en série. Point, quoi.
C'est un tueur en série. Vous dites une vingtaine de victimes. Combien de
peut-être plus,
et ça nul ne le sait. Combien de corps manquent à l'appel sur les victimes officielles, j'ai envie de dire?
Nous sur Lyon, il manque 5 corps, hein, voilà quoi. Mais on pense qu'ils sont. Alors il y a des. Bon, je peux pas tout vous dire. Il y a encore des choses qui actuellement sortent. Hein, parce qu'il y a des ossements qui ressortent, etc.
Bien
qui
sûr.
Sont à l'étude. Qui sont pas à l'étude, mais qui sont en train d'être testés en ADN.
Expertisés, bien sûr.
Donc voilà. Mais dans le coin où il a. Mais je pense que tout ont été enterrés là. C'était son cimetière. Le problème, c'est que c'était en plein hiver, à Noël, il pleuvait, vous voyez, les bottes, la boue,
etc., ils ont
creusé, c'était compliqué pour les gendarmes, je reconnais, il aurait fallu retourner peut-être 2 hectares de terrain, quoi. Mais il y a eu des centaines de vêtements de retrouvés, quand même, hein.
Ouais.
C'est bien des centaines, hein.
C'est pas rien. Stéphane Manka, journaliste, et vous avez mené cette enquête sur Émile Louis très, très longuement. Je vous pose la même question. Est-ce qu'on sait tout aujourd'hui d'Émile Louis?
Moi, j'aurais toujours un regret pour la première victime, finalement.
Celle qui déclenche le sage, toute l'affaire.
Ouais. Qui déclenche tout et qui sera la grande absente durant toute la suite. C'est-à-dire que... Je sais pas ce qu'il était possible de faire compte tenu du si on pouvait joindre ou pas le dossier finalement comme Jambert l'avait espéré à l'époque, mais c'est vrai qu'on a
il paraît évident aujourd'hui à la lecture des dossiers que c'est la 8e victime si Pierre Monnoir
on le pense
entendu,
hein.
Pierre Monnoir parle d'une vingtaine ou peut-être plus de victimes
En tout cas voilà c'est Sylviane, on est sûr d'une chose, c'est que là voilà ils avaient des liens ensemble, ils ont été vus ensemble, ils ont eu des relations sexuelles, donc cette proximité qui est si semblable à celle des 7 autres disparus qui ont eu elles droit à un procès me feront toujours regretter que Sylviane n'ait pas été associée évidemment à la condamnation d'Émile Louis.
Pierre Monnoir, je voudrais terminer l'émission avec vous, mais en quelques mots simplement, est-ce que la justice aujourd'hui a tiré les leçons de l'affaire Émile Louis? En quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je pense qu'elle a l'intérêt, mais bon, c'est toujours très compliqué. Vous savez, tant qu'on n'aura pas un pôle sur les disparitions, je peux vous donner des listes complètes de jeunes femmes qui ont disparu, tant qu'on aura, comme le pôle financier, un pôle de disparition, et, on s'en sortira pas.
Et c'est le combat mené d'ailleurs par certains avocats d'obtenir ce pôle qui serait destiné aux disparus et aux cold cases. Merci beaucoup Pierre Monnoir d'avoir été en ligne ce soir dans l'heure du crime, Stéphane Manka qui était dans le studio, d'avoir été les invités de l'heure du crime, le cas Émile Louis et ses zones d'ombre toujours persistantes. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un très grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette émission, cette heure du crime.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin,
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.